Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Au téléphone avec nous, et comme toutes les semaines, Françoise Verna de La Marseillaise pour égrener avec elle, comme tous les vendredis, la une de La Marseillaise à paraître ce jour. Bonjour Françoise.
Oui, bonjour. Cette semaine, le dossier de La Marseillaise est consacré à l'enjeu de santé publique qui sont les déserts médicaux et comment on peut combattre ce phénomène qui est très installé. On sait que dans notre région Occitanie, près d'un habitant sur deux vit dans un désert médical. Donc nous expliquons et les raisons de cette situation et surtout les solutions envisagées. Par la suite, notre invitée pour notre grand entretien est Martine Maragou, qui est la responsable d'Emmaüs Montpellier. Elle nous détaille évidemment l'actualité de l'association et notamment le lancement d'une grande campagne de communication que la Marseillaise va soutenir et qui s'avère nécessaire pour qu'Emmaüs continue son action auprès des personnes les plus en difficulté. On fait aussi un sujet très politique en allant du côté de Béziers, puisque nous avons réalisé un entretien avec Nicolas Cossange, qui est conseiller municipal d'opposition de gauche au maire de Béziers, Robert Ménard, et responsable du Parti communiste dans l'Hérault. Il revient notamment, Nicolas Cossange, sur la situation financière de la ville et il dénonce les choix du maire d'extrême droite, qui est celui de l'endettement, et il se pose la question de l'utilité pour les habitants de Béziers de ces choix politiques. Et en économie, nous restons dans le Biterrois, puisque nous expliquons les tenants et les aboutissants du projet industriel Genvia. En fait, c'est un vaste projet de production d'hydrogène décarboné qui, à terme, a l'ambition de créer 500 emplois dans le Biterrois à horizon 2030.
Voilà pour la une. Vous savez tout, chers auditeurs. Et on en parle tout de suite avec Françoise Verna.
Politique, sociale, société, économie, France et international, environnement, sport, culture et loisirs, La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.
Alors Françoise, le dossier de cette Marseillaise de cette semaine portera sur les déserts médicaux.
Oui, tout à fait. Nous sommes emparés de ce sujet qui devient un sujet très très brûlant, puisque selon l'Agence régionale de santé, l'ARS d'Occitanie, près d'un habitant sur deux dans la région vit dans un désert médical, c'est-à-dire qu'il n'a pas accès à un médecin généraliste et encore moins à un spécialiste. Récemment, l'association des maires ruraux avec le réseau France Bleu de radio a révélé dans une enquête qu'il manquait aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national 6000 médecins généralistes.
Ah oui, c'est énorme.
Donc c'est énorme. Donc c'est une situation qui crée des inégalités profondes dans l'accès aux soins. Dans notre dossier, bien évidemment, au-delà du constat qu'il faut évidemment rappeler, nous expliquons les raisons de cette pénurie. Alors, ce sont des raisons qui sont profondes et structurelles. Il y a des choix politiques qui ont été faits dans les années 90 de limiter ce qu'on appelle le numerus clausus pour la formation des futurs médecins. Ça a aussi énormément pesé. Il y a aussi la question de l'installation des médecins et la vraie question sur la liberté d'installation, sachant que c'est quand même de l'argent public avec la sécurité sociale qui paie la prestation médicale.
Oui, et tous les médecins et l'ordre des médecins sont vent debout, car l'État, à un moment donné, parlait d'imposer l'installation dans un endroit à un nouveau médecin, les médecins n'en veulent pas.
Exactement. Bon, après, il y a évidemment, il y a les raisons de la pénurie qui créent donc ces déserts médicaux, et il y a les solutions qui sont envisagées. Mmh. Donc, on a donné la parole d'abord aussi à des habitants, à des patients, où ils nous expliquent leur chemin de croix, si on peut dire, pour tout simplement aller consulter. Il y a énormément de personnes qui renoncent aux soins. Faute d'avoir accès à un médecin, certains expliquent que leur dernier recours, c'est d'appeler le 15, et que c'est pas forcément évidemment la bonne solution. On a donné aussi la parole à des élus de proximité, aux représentants de l'État, et parmi les solutions envisagées, il y a évidemment l'aide à l'installation. Alors il y a l'aide à l'installation au niveau de l'État avec l'ARS qui a élargi un petit peu le périmètre où de l'aide peut être versée pour aider les médecins à s'installer. Oui. Et puis, il y a les collectivités qui, face à ce problème vraiment très, très lourd, décident de lancer des plans de recrutement. C'est le cas de la région Occitanie, qui est la seule région sur les 13 aujourd'hui en France, qui ambitionne de recruter d'ici 2028, donc dans les 6 prochaines années, pas moins de 200 médecins. Mmh. Alors évidemment, on pose la question de la responsabilité nationale. Hein. Est-ce que c'est aux collectivités de régler ce problème de solidarité nationale et d'enjeux de santé publique, qui relève évidemment de la responsabilité de l'État? Est-ce que c'est à elle de payer? Voilà, donc on ne tranche pas le débat, mais on donne dans ce dossier tous les termes du débat, justement, toutes les clés de compréhension pour que les lecteurs et puis les auditeurs, le citoyen, puissent se forger évidemment une connaissance et sa propre opinion là-dessus, puisque je pense que c'est aussi les citoyens peuvent peser sur ces situations et se mobiliser aussi. Il existe des associations qui se mobilisent pour mettre fin à ces déserts médicaux qui touchent évidemment énormément de zones rurales, mais aussi des zones urbaines et périurbaines.
Le deuxième sujet à la une de la Marseillaise, c'est le grand entretien. Vous avez invité Martine Maragou d'Emmaüs Montpellier.
Oui, tout à fait. Alors Martine Maragou, responsable d'Emmaüs Montpellier. Alors il faut savoir que Emmaüs Montpellier, c'est une des plus importantes communautés Emmaüs de France, hein, puisqu'il y a plus de 180 compagnons. Il y a des familles aussi. Hein, la première famille a été accueillie en 2012-2013. Et évidemment, les associations comme Emmaüs sont de véritables baromètres qui permettent de mesurer la précarité. Et donc, elle nous explique que cette précarité, évidemment, augmente avec une demande de plus en plus importante, notamment de la part de femmes. Il y a aussi plus d'une vingtaine de nationalités sur la communauté, avec 50% de personnes qui sont des personnes migrantes. Hein. Alors c'est pour ça que Martine Maragou, dans nos colonnes, lance un appel à la générosité, hein, puisqu'il y a une campagne de communication que nous allons relayer dans nos colonnes, hein, pour rappeler le sens et la portée du don, nous explique-t-elle. Parce qu'elle dit que derrière le don matériel, on aide un être humain à se restructurer, à retrouver sa dignité, sa place dans la société. Et donc, elle résume d'une formule, donner à Emmaüs, c'est aider l'autre. Voilà. Et puis, elle rappelle aussi que c'est vrai que Emmaüs est est vraiment identifiée à l'image de l'abbé Pierre. Et donc, il y a des générations, on va dire les plus de 50 ans, pour qui ça fait encore sens. Mais il y a des nouvelles générations et c'est moins parlant pour les jeunes. Et donc, elle tient à préciser que, évidemment, l'abbé Pierre, c'était un religieux, hein, comme son titre l'indique, mais il a fondé une association complètement laïque. Et donc, elle dit, on n'a pas d'étiquette. Donc, c'est peut-être aussi un frein qu'il faut lever. Et donc, elle détaille aussi un peu toutes les actions qui sont faites par Emmaüs Montpellier, C'est aussi une véritable, on va dire, une communauté qui est vraiment très axée sur le travail, l'économie et l'économie circulaire. D'accord. Puisque tous les objets qui sont donnés, ils sont recyclés, ils sont retapés, ils ont une seconde vie et donc ils sont vendus pour que la communauté puisse perdurer et puisse mener ses actions. Mmh. Donc il y a des dizaines, ils ont une dizaine de magasins, aussi bien en textile, en menuiserie, l'électroménager, en meubles, en musique. Et tout ça, c'est tenu par des compagnons, donc qui travaillent au sein de la communauté.
Et on peut dire heureusement qu'il y a des associations comme ça. En France.
Oui, et d'ailleurs, elle souhaiterait ouvrir la responsable d'Emmaüs Montpellier une annexe plutôt dans le nord de la ville, parce qu'elle dit qu'ils auraient largement de quoi remplir un autre lieu d'accueil, parce que dès qu'une place se libère dans la communauté, évidemment, le lendemain, elle est prise. Hein. Oui. Mais en fait, c'est un gros travail. Hein. Il faut trouver le terrain, le bâtiment, et ça demande des moyens financiers très très important, voire trop important. Oui. Et donc elle dit avec un peu d'humour qu'il va falloir qu'elle prenne son bâton de pèlerin pour aller rencontrer les responsables politiques. Enfin, c'est un appel donc elle lance aussi dans nos colonnes vendredi.
Et on espère qu'ils y répondront à cet appel.
Voilà.
Côté politique, Françoise, la Marseillaise a réalisé un entretien avec Nicolas Cossange, conseiller municipal d'opposition au maire de Béziers, Robert Ménard, et responsable du PCF de l'Hérault.
Oui, tout à fait. Alors l'intérêt, c'est que dans quelques semaines, il va y avoir le vote du budget primitif de la commune de Béziers, donc qui est dirigé par Robert Ménard, qui n'est pas au Rassemblement National, mais qui est apparenté extrême droite.
Hein, sympathisant.
Et donc Nicolas Cossange, qui bataille au sein du conseil municipal sur les bancs de l'opposition, dénonce la situation calamiteuse des finances de la commune, qui est donc gérée depuis 2014 par Omer Ménard. Donc il y a surtout la dette de la ville qui, de son avis, s'envole et qui va dépasser, selon lui, le record absolu de 2009 sous la gestion de la droite. Il faut rappeler que Robert Ménard s'est fait élire en dénonçant justement cette gestion de droite, et qu'en définitive, il y a des choix qui sont faits, des choix politiques qui sont faits et qui ne sont pas, de l'avis de Nicolas Cossange, absolument pas au niveau et au service des habitants de Béziers. Mmh. Alors, évidemment, cela s'inscrit dans un contexte national qui est induit par la politique du gouvernement, mais Nicolas Cossange dit que cette partie de la solution se trouve dans les luttes sociales, et il s'interroge justement sur l'attitude d'un maire qui a montré quand même une certaine, une certaine proximité avec le président Emmanuel Macron. Hein, et il se demande pourquoi il ne demande pas le retour aux tarifs réglementés de l'énergie pour les collectivités, puisque la ville de Béziers va aussi crouler sous une facture énergétique très importante. Donc, il y a des mairies qui se mobilisent, ce n'est pas le cas de la mairie de Béziers, et donc il le tacle en disant qu'il se promène plutôt sur les plateaux de télé pour faire sa propre promotion, et ça ne suffit pas, en tout cas dans la vie quotidienne des habitants de Béziers. Et donc, on a fait le choix de lui donner la parole parce que l'extrême droite est en train, évidemment, de prendre de plus en plus d'espace politique et dans les élections. Or, ils ont une gestion médiocre. Hein. Donc, c'est l'occasion de donner la parole à un opposant de proximité à cette politique qui n'est pas au service de l'intérêt général.
Et pour finir, côté économie, la Marseillaise reste dans le Biterrois avec l'explication du projet industriel Janvia sur de la production d'hydrogène décarboné.
Oui, tout à fait. Alors, c'est une société de production d'hydrogène décarboné, comme vous l'avez dit, donc à Béziers. Et donc, il y a le soutien des pouvoirs publics, de l'État, de la région. Et le 30 septembre, il y a eu le lancement de ce qu'on appelle EDEN. Mmh. C'est un écosystème durable et énergie naturelle. En fait, c'est pour fédérer tout ce qui va être nécessaire à la construction d'un site industriel pour produire pour produire de l'hydrogène décarboné et de l'hydrogène donc qui permettrait, si le projet est bien mené, d'ici 2050, de répondre à 20% de la demande d'énergie nationale et de réduire les émissions annuelles de CO2 de 55 millions de tonnes. Alors, il faut savoir que pour le Biterrois, c'est très important puisque c'est un territoire qui a énormément souffert de la désindustrialisation.
Oui.
Donc, le projet Genvia est né début mars 2021 sur le site historique de Schlumberger Cameron à Béziers. Donc, on rappelle le soutien de la région Occitanie. Il va y avoir plus des dizaines de millions d'euros qui vont être mobilisés, notamment à travers le plan France Relance, mais aussi donc de la région qui est actionnaire du projet à hauteur de 6,5%. Donc c'est quand même très très volontariste. Ce fameux écosystème durable et énergie naturelle Eden, c'est de l'anticipation, a précisé Carole Delga. Ils sont appelés à se réunir à peu près tous les 6 mois. C'est pour anticiper, faciliter et développer cet écosystème industriel, donc avec 5 piliers qui donneront naissance à des groupes de travail. Il y a le côté l'innovation, la formation bien sûr, puisque ce sont des techniques et des technologies où il faut de la formation. Il y a le projet de création d'un campus, il y a aussi des infrastructures, il faut construire donc le foncier, l'attractivité, le développement de cette filière. C'est vraiment une opportunité, une chance pour le territoire. Comme l'explique la responsable Florence Lambert du projet, une des responsables du projet, au début, en mars 2021, il y avait 30 personnes qui venaient de Schlumberger Béziers qui étaient dans le projet.
Oui.
Ils sont pas loin aujourd'hui d'une centaine. Et donc, l'idée, c'est d'atteindre 200 salariés à horizon 2025. Donc, c'est vraiment très court, c'est demain. Et donc, d'avoir quelque chose de beaucoup plus conséquent autour de 2030 avec 500 emplois. Et donc, ça fait partie des projets vraiment structurants pour remettre de l'industrie sur ces territoires, sachant que l'industrie, c'est quand même ce qui produit le plus de richesses pour un territoire en termes de création d'emplois. Et ça se fait dans le respect absolu de l'environnement, puisque l'hydrogène, c'est peut-être ce qui va permettre de faire rouler des trains, de y compris des avions, et de repenser les transports de demain.
Et oui, c'est surtout qu'on sait très bien que les constructeurs ont freiné des deux pieds l'arrivée de l'hydrogène, puisqu'ils avaient lancé beaucoup d'argent dans la construction des voitures électriques.
Oui.
On se rend compte que ça ne sera pas forcément la solution. Le problème de l'hydrogène, c'était de décarboner la production, et là, visiblement, on y arrive.
Tout à fait. Donc, c'est vraiment très ambitieux. On voit l'importance aussi de la recherche, de laisser aussi le temps de la recherche, et puis d'allier recherche et application concrète. De toute façon, on est au pied du mur. Il faut trouver des solutions nouvelles pour l'emploi et sans détruire notre environnement.
Eh bien, chers auditeurs, vous savez tout et vous retrouverez plus encore rendant dans les kiosques à partir ce vendredi pour cette nouvelle édition de la Marseillaise. Et puis nous, Françoise, on se donne rendez-vous évidemment à partir de la semaine prochaine.
Exactement.
À la semaine prochaine, Françoise.
À la semaine prochaine, merci.
En partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9 les titres de la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Vernat. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.